Carapatage, une émission contre toutes les cages. Carapatage, c'est une émission contre les prisons, la répression et le contrôle. À travers l'actualité de l'enfermement, mais aussi son histoire.
En racontant les luttes à l'intérieur et à l'extérieur, en échangeant ce qu'on a vu, lu et entendu. Carapatage, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h.
Sur Radio Libertaire 89.4 FM. Carapatage, contre toutes les cages.
Bonsoir, vous êtes bien sur Carapatage, l'émission contre toutes les cages, en direct tous les premiers et troisièmes mercredis du mois sur Radio Libertaire. Donc un peu des informations pour nous contacter. On a un compte Instagram @carapatage, on a une adresse mail carapatage@riseup.net, on a une adresse postale 4 Villa Stendhal 7520 Paris. Et vous pouvez nous appeler pendant l'émission au 01 46 71 89 40. On vous répondra.
01 43.
Ah, 01 43 71 89 40. Donc ce soir, on est plusieurs autour de la table. Moi, c'est Kate.
Salut, c'est Henri en direct du studio de Radio Libertaire en train de boire une petite tisane.
Salut, c'est Pile.
Et toi aussi, t'as besoin de boire de la tisane.
Oui, j'en bois beaucoup depuis quelques jours, mais ça ne marche pas.
Et à la technique.
Bonsoir, c'est Gomme.
Donc ce soir, on va parler de la semi-liberté, mais avant, on va commencer par quelques petites brèves d'actualité. Et on va commencer par Pile, qui va nous parler de la réforme de la justice.
Ouais, j'ai retrouvé, j'ai perdu ma voix, mais j'ai aussi perdu mon papier de la brève, et ça, j'avais pas apprise par cœur la réforme de la justice.
Où
j'étais
ah
bon bien, enfin bah, bref. Mais voilà, la réforme de la justice que nous promet Dupond-Moretti, qui sera bientôt jugé lui aussi pour conflit d'intérêts. Voilà. Il en fait une réforme là pour
être sûr de.
Ouais, voilà. Du coup, toujours un plus gros budget pour la justice. Donc ça, c'est un peu son maître mot, disons, depuis le début qu'il est au ministère de la Justice. Plus d'argent. Alors là, plus d'argent pour continuer à construire le plan de 15 000 places de tôle. Plus d'argent pour avoir plus de magistrats et de greffiers, pour moderniser les palais de justice et aussi numériser la justice. Donc d'ici 2027, il imagine une justice zéro papier. Voilà. C'est quoi un peu les différentes autres mesures? C'est modifier le code pénal, simplifier les procédures civiles et pénales, et simplifier aussi la procédure de comparution immédiate. Pour aussi augmenter le nombre de procédures de comparution à délai différé, qui est un petit peu différente de la comparution immédiate. En fait, la comparution à délai différé, c'est s'il y a des résultats de certains actes, actes judiciaires qui ne sont pas obtenus à la fin de la garde à vue, c'est la compa à délai différé qui va s'appliquer. Et donc, comme la comparution immédiate, ce sera pour les mêmes délits, et aussi ce sera les mêmes délais dans lesquels on doit être jugé, mais en fait ce sera comme une forme de, enfin ça existe déjà hein, mais c'est peu utilisé, comme une espèce de mini instruction quoi. Voilà, et qu'est-ce qu'il y a dans cette réforme? Il y a aussi la simplification du cadre des enquêtes préliminaires et de flagrance, et l'extension des perquisitions la nuit pour les crimes de droit commun. Donc voilà, et qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi en prison, amener de nouvelles entreprises qui pourront exploiter des prisonniers et prisonnières. 90 nouvelles entreprises, c'est son projet. Généraliser les caméras piétons pour les matons. Et aussi produire une nouvelle circulaire sur les tiges fin janvier. Pour encore encourager les tiges. Tout ce truc des peines alternatives. Donc voilà, c'est un peu un fourre-tout. Qui pour l'instant n'est pas suivi des faits, mais on essaiera de suivre un peu ce qu'ils projettent et etc. Ah oui, et aussi dans cette réforme de la justice, on continue à construire des CER, des centres éducatifs renforcer.
Renforcer, oui.
Voilà. Donc, il n'y a rien de très nouveau sous le soleil.
Plus de répression.
Plus de répression et aussi peut-être des simplifications des procédures, mais pas pour les usagers et les usagères, plutôt à l'avantage des flics et des magistrats pour que ça aille plus vite pour eux, quoi. Voilà.
Henri, tu voulais continuer en nous parlant de la censure du numéro de l'envolée ?
Ouais, tout à fait. Alors, récemment, il y a le numéro 56 de l'envolée qui est sorti et qui a aussitôt été censuré en prison, tout comme le numéro 55 et le numéro 52. On se demande un peu de quoi a peur l'administration pénitentiaire. Là, visiblement, ce qui a l'air de poser problème, c'est un article qui relate le procès de Maton, de Lille Sequedin, qui sont responsables de la mort d'un prisonnier. Et ce qu'en dit l'envolée, et voilà, l'envolée appuie la responsabilité des Matons, malgré le fait que le procès ait été, ça ne vous étonnera pas, une mascarade. Donc, le numéro est interdit en détention et a même été retiré à certains prisonniers qui l'avaient déjà reçu. Donc, soutenons l'envolée, abonnons nos proches qui sont en prison pour qui l'abonnement est gratuit. Et nous, dehors, on peut le lire soit la version papier, soit la version PDF qui est disponible sur le site de l'envolée. Force à nos copains de l'envolée.
Moi, je vais continuer en parlant de la mobilisation des proches de Alassane Sangaré qui est décédé à Fleury. Du coup, pour rappel, Alassane Sangaré, il est décédé le 24 novembre à la maison d'arrêt de Fleury, 5 jours après avoir été incarcéré en détention provisoire. Donc, il était encore au quartier des arrivants. Il y a eu une altercation violente avec des matons qui l'ont placé dans une cellule spéciale où il a été retrouvé mort. Donc, en fait, comme à chaque fois, la paix dit que c'est un suicide. Ici, ça serait à l'aide d'un fil de téléphone fixe en cellule, ce qui est techniquement impossible. Et en fait, il y a une autopsie qui a été faite par l'Institut de médecine légale de l'Essonne, mais qui ne rend toujours pas son rapport à la famille et à l'avocat de la famille. Parce qu'en fait, le parquet d'Ivry refuse que ce rapport soit transmis. Et donc, ses proches, ils ont organisé un rassemblement qui a eu lieu le 13 janvier devant cet institut de médecine légale pour demander le rapport d'autopsie. Mais suite à ce rassemblement, ils n'ont toujours pas pu l'obtenir. Et donc, force à eux, et on espère qu'ils pourront l'obtenir.
Ils continuent, les proches, à mettre des infos sur la page Instagram pour Alassane Sangaré. Donc, si vous voulez aller suivre, ça se passe sur Insta.
Voilà, et je vais continuer en parlant aussi d'un refus de réintégrer les cellules au Baumettes pour protester contre les brouilleurs de téléphones portables. Donc en fait, ce samedi 28 janvier, il y a une cinquantaine de prisonniers du quartier Homme 1 des Baumettes qui ont refusé de réintégrer leurs cellules après la promenade en protestation des conditions d'enfermement. Donc ça fait suite déjà à l'installation en cours de brouilleurs de téléphones dans la prison. Donc en fait, les brouilleurs de téléphone, on en a parlé un peu dans notre précédente émission, mais voilà, ils sont là pour empêcher les prisonniers d'utiliser leur téléphone en brouillant partiellement certaines fréquences d'ondes, dont la 4G. Mais ils protestaient aussi contre les repas de la cantine qui sont trop pauvres en viande et contre le froid dans la prison en ce moment pendant cette vague de froid qu'il y a eu. Et donc, suite à ça, il y a les ERIS qui sont intervenus violemment. Il y a 8 prisonniers qui ont été placés en quartier disciplinaire et 2 qui ont été transférés. Et voilà. Et donc, pile, tu vas... Ah non,
c'est comme... Mais moi, j'ai parlé en mode usagère, quoi. Je me suis mis à parler comme si j'étais ministère, quoi.
C'est abusé.
Ouais, c'est abusé.
Du coup, Gomme, tu vas nous parler de... Tu nous emmènes en Italie.
Ouais, je vais donner quelques nouvelles de la situation d'Alfredo Cospito, dont on a parlé régulièrement dans les émissions précédentes, du coup, qui est un anarchiste italien qui a pris la perpète incompressible en Italie, qui est incarcéré en Italie au 41 bis, qui est le régime d'isolement le plus fermé, le plus dur en Italie et qui est du coup en grève de la faim contre l'existence de ce régime d'isolement du 41 bis et contre la perpétuité incompressible. Et Donc là, il en est à son 105e jour de grève de la faim. Alors les dernières nouvelles de sa santé sont plutôt mauvaises, quoi. Il va plutôt très mal, mais il y aura moins de nouvelles qu'avant parce que la médecin qui le suit de l'extérieur, qui va le voir régulièrement, elle peut plus donner de nouvelles à la radio, par exemple, de sa santé, parce que du coup, un des trucs du 41 bis, c'est qu'il n'y a pas du tout le droit. Enfin, l'idée, c'est couper la communication entre l'intérieur et l'extérieur complètement, et du coup le fait qu'il y ait un tiers qui parle de la situation d'une personne enfermée au 41 bis, c'est pas censé être autorisé. Et en tout cas, il a signé un papier pour dire qu'il refusait d'être alimenté de force, et récemment il a été transféré à Milan, parce qu'avant ça il était dans une prison en Sardaigne, et du coup là il a été transféré à Milan parce qu'il y a un espace médicalisé pour pouvoir prendre un peu en charge, mais il est toujours dans une cellule et sous le régime du 41 bis. La solidarité continue, il y a toujours beaucoup d'actions qui se passent, des manifestations, et le week-end dernier, il y a eu des manifs dans plusieurs villes, dont Turin et Rome. À Rome, il y a eu des affrontements avec les flics et une quarantaine d'arrestations, mais a priori tout le monde est ressorti. Il y a aussi eu à Rome un molotov lancé sur le Comico. À Turin, il y a eu une antenne relais incendiée en solidarité avec Alfredo. C'est quelques actions et rassemblements parmi plein d'autres choses qui se sont passées qu'on ne va pas détailler. À Paris, il y a eu une banderole qui a été posée devant le consulat italien. Et aussi, du coup, il y avait un recours qui avait été fait contre le 41 bis pour Alfredo auprès du ministère de la Justice italien, qui est responsable de cette décision. Et en fait, là, le recours, il vient d'être rejeté. Et du coup, en fait, le gouvernement a décidé de le laisser mourir. Et d'ailleurs, il y a l'ennemi public numéro un italien qui a été arrêté aussi il y a deux semaines, qui est un parrain de la mafia, quoi. Et du coup, la plupart des gens qui sont au 41 bis, c'est des mafieux, mafieuses. Et du coup, cette arrestation, elle arrive un peu. Du coup, le gars, ça faisait des années qu'il était en cavale. Et du coup, cette arrestation, elle arrive un peu à point nommé pour relégitimer l'existence du 41 bis, parce qu'il y a des vrais méchants. Et ils utilisent le fait qu'il y ait des actions pour dire que les anarchistes sont vraiment dangereux. Aussi, pour rappel, ces dernières années, il y a trois personnes déjà qui sont mortes de grève de la faim dans les prisons italiennes. Bon, on espère que c'est pas ce qui va se passer pour Alfredo Cospito, mais a priori c'est hyper mal parti, parce que lui, il a annoncé qu'il irait jusqu'au bout et que le gouvernement a pas l'air d'être prêt à lâcher. Mais en tout cas, il faut continuer la solidarité, c'est important.
C'est la fin des brèves, et avant de passer au sujet à la thématique de ce soir, on va écouter une petite musique, We Don't Get Tired, We Get Even, de Pat de Bunny. So we're up all night scheming. We don't get tired, we get even. Thank you. Vous êtes de retour sur Carapatage, l'émission contre toutes les cages. Pour rappel, si vous voulez nous appeler, vous pouvez nous appeler pendant l'émission au 01 43 71 89 40. Et avant de continuer, Henri, tu voulais nous faire une petite traduction de cette chanson qu'on a écoutée.
Oui, alors juste le premier couplet, parce que je la trouve cool. Ça raconte « We're up all night dreaming, on passe la nuit à rêver. We aren't alive as long as there are prison guards still breathing. On n'est pas en vie tant qu'il y a encore un gardien de prison qui respire. So we're up all night scamming. » Donc on passe la nuit à faire des plans. We don't get tired, we get even. On s'épuise pas, on rend les coups. De pattes de bunny, voilà.
Trop bien. Et donc on va passer au thème de soir. On va parler de la semi-liberté. Un peu, les centres et les quartiers de semi. Comment ça a été créé, comment ça fonctionne, comment ça rentre dans le système mis en place par la paix du bâton et de la carotte, tout ça. Et donc c'est Henri qui va commencer en nous expliquant un peu comment ça fonctionne et comment ça a été créé.
C'était suite au décès qu'il y a eu à la Talaudière de Mehdi récemment, dans un quartier de semi-liberté qu'on s'est dit qu'on n'avait jamais parlé de ça dans l'émission, et que du coup on avait envie de faire une émission sur ça. La semi-liberté, déjà pour commencer, c'est un aménagement de peine, comme le bracelet ou le placement extérieur. Le prisonnier est toujours sous écrou, et donc sous contrôle de l'administration pénitentiaire, et c'est accessible pour les peines de moins de 2 ans ou de moins d'un an en cas de récidive. Et c'est les mêmes durées que ce soit quand on est condamné en premier lieu et qu'on va direct en semi-liberté ou en aménagement de peine alors qu'on est déjà en prison. C'est pas beaucoup utilisé, mais c'est aussi possible d'être sous contrainte judiciaire et d'être placé en semi-liberté. Alors, c'est un peu compliqué les chiffres sur Internet de combien il y a de centres de semi-liberté en France. Il y a des chiffres un peu vieux, des chiffres récents, etc. Il y aurait une dizaine de centres de semi-liberté avec environ 1000 places, ce qui d'ailleurs, dans un premier temps, pèse pas lourd par rapport aux 60 000 places qu'il y a en détention. En fait, la semi-liberté, quand on est placé en semi-liberté, on peut être soit dans un centre de semi-liberté, qui est en fait pas une prison en tant que telle, mais qui est genre un peu un sorte de foyer où les prisonniers ont non pas des cellules, mais les endroits où ils dorment sont appelés des chambres, les repas sont pris en commun. Sur Internet, ils disent que c'est des sortes de foyers, quoi. Contrairement à un quartier de semi-liberté, qui pour le coup est vraiment un quartier d'une prison, où il y a des cellules qui fonctionnent exactement de la même manière. Ça c'est les deux premiers endroits. Et il y a aussi des quartiers d'application des peines. Des quartiers pour peines aménagées, comme il y en a un à Villejuif. Donc quand on est condamné à de la semi-liberté, il y a un peu différents types d'endroits où on peut aller. Le principe, c'est qu'on sort le matin et on rentre le soir et les week-ends. On ne sort pas par simple plaisir d'aller se balader, mais parce que pour aller à un travail, faire une formation ou à un stage, et on se doute bien que la plupart des emplois qu'on va réaliser quand on est en semi-liberté, c'est des emplois précaire, d'autant plus quand on sort de détention où en fait c'est super difficile de trouver un taf quand on est en prison. Donc généralement c'est les proches qui réussissent à arranger une embauche, etc. L'idée c'est le travail, la réinsertion, et par ailleurs si on se comporte mal, c'est le retour à la case prison. Donc il y a toujours un peu cette menace qui pèse. Pour faire un petit historique, aujourd'hui, c'est la loi pénitentiaire de 2009 qui régit comment se passe la semi-liberté. Mais c'est une idée qui est née en 1945, parce qu'on avait plein de bonnes intentions au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Et il y a une sorte de mise en place expérimentale de la semi-liberté jusqu'en 1958, où là, il y a
une loi qui crée à la fois la semi-liberté, le juge d'application des peines, le sursis, la permission de sortie. Voilà, et toutes ces choses-là, tous ces nouveaux trucs rentrent dans le code de procédure pénale. Et dès le début, voilà, comme je disais, la semi-liberté sert entre guillemets à empêcher l'incarcération des courtes peines. Avec l'idée que en fait il y aurait des personnes qui seraient mises en prison mais qui garderaient leur travail et donc sortiraient la journée pour aller travailler ou une sorte de liberté conditionnelle. Donc en fait c'est le juge d'application des peines qui accorde une semi-liberté pour voir si la personne est entre guillemets prête à se réinsérer dans la société. Et en réalité c'est plutôt la deuxième option qui est plus appliquée, c'est-à-dire une semi-liberté après une peine de prison ferme. Dans le début des années 70, il y a encore un nouveau changement législatif qui permet que la semi-liberté soit accordée pour une formation et non plus seulement aller faire un taf ou le suivi d'un traitement médical. À ce moment-là, il y a dans les TGI des comités de probation et d'assistance aux libérés qui s'occupent de gérer le milieu ouvert et la semi-liberté. Donc ça fait environ 60 ans que ça existe et plus généralement, ça fait 60 ans que des choses sont mises en place dans le milieu ouvert, entre guillemets, qui, comme on l'a déjà dit dans plein d'émissions différentes, ont permis une sorte d'extension de l'enfermement et du coup les personnes surveillées par la justice aujourd'hui ne sont plus seulement celles qui sont enfermées mais aussi aussi par ailleurs celles qui subissent des mesures à l'extérieur telles que le sursis, les travaux d'intérêt généraux, etc. Et en 2021 ça concernait 175 000 personnes en tout. Alors, autre chose peut-être d'important à dire sur la semi-liberté, c'est que ce n'est que semi-liberté, on est vraiment en prison dans le sens où si on ne rentre pas au foyer ou au quartier de semi-liberté au moment voulu, c'est considéré comme un délit d'évasion, comme si on avait été en taule normale et qu'on s'était cassé. Les conditions à l'intérieur, elles sont pas faciles parce que déjà, il y a un fort taux d'occupation. Les cellules sont blindées, particulièrement en Île-de-France. Et en plus de ça, en fait, comme les prisonniers sont pas là la journée, il n'y a ni activité, ni parloir. Donc du coup, ça fait que c'est des conditions un peu compliquées.
Alors ça, j'ai l'impression que ça dépend des prisons. Qu'il y a des prisons où il y a des parloirs, parce qu'il y a des prisons où les détenus peuvent sortir le week-end en fonction des autorisations ou pas.
Ouais.
Et du coup, des fois, il y a des parloirs quand même. J'ai lu un récit là où de quelqu'un avait un parloir.
Le week-end, du coup.
Ouais.
Ok.
Mais ça doit dépendre des tôles, ça c'est sûr.
Moi, ce que j'ai vu, c'est que du coup, en Île-de-France, du coup, où il y a un fort taux d'occupation et dans les cas où il n'y a pas de parloir, ça incite les juges à permettre aux personnes de ne pas être là le week-end. Du coup, mais ça, c'est conditionné au fait que tu as une adresse, enfin, quelqu'un qui peut te loger. Parce que si ce n'est pas le cas, enfin voilà, faut que tu aies quelqu'un qui peut te loger et dont les juges et les autorités ont l'adresse, quoi. Une peine de semi-liberté généralement est assez courte par rapport à ce qui peut être la normale en détention, c'est-à-dire que c'est un an max et que dans les faits c'est plutôt 5 à 6 mois quoi. Une autre difficulté qui peut être rencontrée par les prisonniers, c'est que à la base t'es en prison et du jour au lendemain tu te retrouves en semi-liberté et tu dois reprendre un rythme de travail et genre en fait du jour au lendemain aller taffer, enfin et que c'est un changement brusque d'habitude et de rythme quoi. Et par rapport à l'obtention, peut-être pour finir, c'est très strict. En fait, ça nécessite, toujours dans ce truc de carotte et bâton dont je pense que tu vas reparler après, ça nécessite un très bon comportement en détention, le fait d'avoir participé à des activités, le fait de ne pas avoir de procédure disciplinaire dans son dossier, et un seul compte-rendu d'incident peut faire simplement... échouer la demande. Voilà un peu sur les pourquoi du comment de la semi-liberté. Ça va, Pile, tu vas survivre ?
Tout à fait. Et aussi, ouais, par exemple, dans les conditions, ça peut être le fait d'indemniser les victimes. Enfin, ouais. Bon, c'est un peu comme pour tous les aménagements de peine, quoi, les mêmes genres de conditions.
Et du coup, avant de continuer, on va écouter un extrait d'une interview de L'Envolée. Et du coup, juste pour contextualiser, c'est une interview faite par L'Envolée avec deux personnes qui ont été en semi-liberté à la santé, avec tous les deux des parcours différents. Il y en a un qui était en détention avant et qui est en semi-liberté pour sa fin de peine, et l'autre qui était sous bracelet et qui a été placé à la suite en semi-liberté. Et donc, dans l'extrait qu'on va écouter, voilà, ça, il parle un peu des horaires de sortie, de comment c'est compliqué de ses horaires pour voir voir leur famille et tout ça. On va l'écouter.
Et par rapport à tes horaires de semi, tu dois rentrer assez tôt, donc avant 19h.
Déjà.
Voilà.
Et j'habite très loin en plus.
Voilà, ce qui fait que tu as des enfants et que tu peux pas voir ta famille.
Excuse-moi, mais j'ai pas vraiment le temps. Oui, c'est vrai. Vu que la mère de mon fils finit à 17h le boulot, moi je rentre à 18h30. Vraiment, j'ai pas le temps. Et c'est vrai que c'est dur. Ta femme et tes enfants. Au final, tu dois rentrer directement et que tu les vois, t'as même pas le temps de profiter un peu. Et encore, tu dois rentrer à 18h30, c'est du grand n'importe quoi.
D'accord, faut que les gens ils soient disponibles de 10h à 17h.
C'est ça, c'est ça le problème. Ça se trouve que tu vas arriver.
Ils sont à l'école, les gens.
Voilà.
Les gens puis il y a ceux qui travaillent.
Ceux qui travaillent, ouais, mais comment ? Justement, ça se trouve, tu vas arriver, ta mère elle est en train de bosser. Voilà, je fais comment ? Ta femme elle est en train de bosser, ton fils il est à la crèche, ça veut dire toi t'arrives, sur le coup il n'y a personne. Et qu'au final, t'attends, et ils sortent on va dire 11h midi, ils ont une petite pause, ils vont sortir, vous allez vous voir vite fait, 14h, 15h, ils reprennent. Je vais dire, toi, t'es là, tu galères, et au final, tu dois rentrer à 18h30. Et encore, les 14h, 15h, quand tu vas sortir, c'est le temps qu'il te faut pour rentrer.
Voilà. Et après, c'est les mêmes personnes qui reprochent aux gens, aux parents, de ne pas faire leur travail,
Merci.
Voilà, c'est bien
ce que on dit, le boulot des parents, il n'a pas été fait. Mais vous-même, déjà, vous
m'empêchez de
faire. Voilà. Il n'y a même pas de fluidité, en fait, dans vos mouvements. Mmh. Donc, forcément, je suis... Et moi, encore, j'ai de la chance parce que ma mère, elle a la retraite. Bon, ça fait 5 ans maintenant, c'est vrai. Je dis, mais ça a rangé au bout d'un moment. Le cerveau, il tourne. Parce que ici, dans le café-là, j'aurais niqué, 15 euros. Je vais à la sandwicherie, 10 euros. Je vais à l'épicerie, 15 euros. En tout, ça me fait combien ? Ma mère, elle me donne 50 euros. Je fais comment ? Donc déjà, j'ai remboursé les trucs. Moi-même, déjà, même mon ticket de transport, je ne peux même pas le prendre. Donc, je fais comment ? C'est ça, le problème.
C'est comme, justement, par rapport à ça, t'as dit, moi, je suis en froid avec mes parents, avec presque toute ma famille. Il me reste quoi ? Il me reste ma grande sœur. Après, ouais, j'ai mes oncles et mes tantes, mais eux, ils sont là, ils travaillent toute la journée. Mais c'est comme... Un exemple, ma grande sœur, des fois je sors de la semi le matin, elle finit le travail à 13h, 14h, elle est infirmière. C'est-à-dire au final, moi je suis là, je sors de la semi, de 8h à 13h, 14h, je suis là, je suis en train de galérer comme un con. C'est-à-dire au final, eux ils s'en foutent que tu galères ou pas.
Ils se demandent pas si on fait, où on est, ou si on est bien, si même ne serait-ce qu'on s'est changé.
Justement, mais justement pour eux, c'est quoi ? T'as une heure de sortie. Tu sors à cette heure-là. Normalement, c'est ça. C'est pas tu sors plus tard ou quoi. Ton heure de sortie, tes horaires, c'est 8h, 19h. Ah bah, 8h, faut que tu sois prêt devant la porte.
Voilà.
Tu sais, même, regarde, ils m'ont dit... ce que tu m'as dit par rapport à hier qui t'ont bloqué. Ça, c'est un truc, regarde. De base, il a les mêmes horaires que moi, sauf que le soir, il rentre à 19h. Hier, je l'appelle, il me dit quoi ? Il me rappelle à 11h, ils m'ont bloqué jusqu'à 11h. Pourquoi ? Parce qu'ils sont passés, ils ont ouvert. Il était encore allongé en train de comater un peu. Ils ont refermé la porte. Mais oh, c'est comment ? On est encore à Fresnes ou... Tu vois,
parce que... C'est ça que je me dis, des fois, en détention ou c'est comment ?
Normalement, c'est quoi ? Normalement, t'es en semi-liberté. Ils viennent, ils t'ouvrent la porte le matin. À n'importe quel horaire tu sors.
Voilà.
Voilà. Normalement, ça se passe comme ça. Mais non. Eux, c'est quoi ? C'est le matin, t'arrives. Tu dois sortir à 8h. 8h, ils viennent, ils t'ouvrent la porte. Si tu sors pas, ils te la referment
derrière. Si t'es un petit peu fatigué ou un petit peu malade, en gros, t'es puni, quoi.
Ouais, voilà.
Mais justement, ils s'en foutent. Mais au final, tu peux pas aller voir le médecin.
Du coup, voilà, dans cet extrait, on pouvait voir un peu comment les horaires à l'extérieur, en fait, elles sont contrôlées. Elles sont très strictement contrôlées et qu'en fait, ça ne permet pas non plus de voir ta famille, de faire autre chose que travailler, chercher une formation, faire ton stage, enfin des trucs qui sont genre orientés vers le travail, voir ta famille, c'est une galère pas possible. Et surtout que ben, dans les semis où il n'y a pas de parloir, et en fait, si le juge d'application des peines n'a pas autorisé la personne à voir sa famille ou ses proches après le travail, en fait, ça fait que tu les vois jamais, même si tu vas à l'extérieur, que c'est pas, en fait, enfin, la semi, c'est pas pour que tu puisses continuer à créer des liens avec tes proches, à voir tes proches, c'est pas pour ça, c'est pour, comme tu disais Henri, travailler. Quand la personne n'allait pas la en semi-liberté, c'est pour effectuer une activité bien précise, et t'es pas censé faire autre chose que cette activité, sauf si on te l'a autorisé, et que c'est vraiment le discours de la paix dans les quartiers de semi-liberté, c'est la réinsertion, mais en fait la réinsertion, ça veut juste dire te mettre au travail, te remettre au travail pour que tu te fasses exploiter avant d'être mis dehors.
Bah, d'ailleurs, c'est ce qui est marqué sur le site du ministère de la Justice, hein, c'est-à-dire les moments où les prisonniers sont dehors doivent avoir un objectif, et tous les autres moments, les prisonniers doivent être en prison, quoi. Donc, c'est-à-dire, voilà, c'est pas une liberté, quoi.
Oui, c'est ça. Et en fait, si ton activité, elle est interrompue, par exemple, pour une période de congé, si tu taffes, il y a une période de congé pour un arrêt maladie, en fait, là, tu rentres en semi et tu restes en semi le temps où cette activité ne peut pas se poursuivre à l'extérieur. L'activité, ça peut être aussi chercher un emploi et effectuer des démarches administratives après pour ta sortie. Et du coup, donc voilà, la réinsertion, c'est la remise au travail. Et en fait, la semi-liberté, c'est un moyen toujours de maintenir les gens enfermés et de continuer à les contrôler. Et on va écouter un deuxième extrait de cette interview de L'Envolée qui parle un peu de la réinsertion. Est-ce que ces deux personnes pensent de cette réinsertion, quoi?
Quand même, ministère, tout, oui, tout ça. Donc, il faut que les termes soient précis.
C'est pour vendre du rêve aux gens, ça. C'est, voilà. Ça n'existe pas.
C'est vendre du rêve. Dire que vous avez le droit.
Pour certains, en fait, c'est quoi? Ils veulent travailler sur le moral des gens. C'est comme le fait de... Regarde, à la SMI, t'as une porte qui est ouverte. L'autre porte, elle est fermée. Tu sonnes à l'autre porte. L'autre porte, il ne te l'ouvre pas tant que l'autre, elle n'est pas fermée. Ouais, la dernière fois, il m'a dit quoi, le surveillant? Il m'a dit, c'est par rapport aux évasions. Mais les évasions, moi, je suis en semi-liberté, je sors toute la journée. Tu crois vraiment que je vais attendre le temps de rentrer à la SMI, voilà, le soir, et je vais m'évader à la SMI? Mais non, c'est du n'importe quoi.
Je
suis dehors la journée. T'as vu, je vais m'évader, mais je rentre même pas chez toi.
C'est tout, ouais. C'est comme un mec qui rentre pas de permission.
C'est du n'importe quoi. Justement, c'est ça, ils veulent travailler petit à petit sur le moral des gens. Ouais. Ils fatiguent les gens moralement, t'as vu.
Ils les poussent à
après, venir. Ils nous poussent à la récidive.
Ils nous poussent à la récidive.
Au lieu de faire de la réinsertion, ils poussent les gens à la
récidive. C'est pour ça que, comme de réinsertion, le terme, même moi, quand je parle avec la gradée, je lui parle de réinsertion, même elle est bloquée.
Ah bah ils ont besoin de monde.
Elle est bloquée.
C'est comme le fait que, des fois, bah moi, mes horaires, c'est quoi? C'est 8h-19h. C'est comme le fait que, à 8h du matin, moi, on me dit quoi? On me dit de sortir.
Voilà. On nous vire. C'est pas on nous dit la nuit. En gros, on nous dit, tu dois sortir.
À 8h du matin, je suis dehors. Que ça soit Pôle emploi, la mission locale, toutes les conneries comme ça. Même faire, j'en ai parlé il y a 5 minutes. Tu vas là-bas, 8h du matin, ils sont tous fermés. 8h du matin, moi, je sors dehors, je fais quoi? Au bout d'un moment, je me pose des questions. C'est soit je retourne dans mes conneries à 8h du matin, dès 8h du matin, je vais aller faire des conneries, ou soit je me range et je suis là, je galère toute la journée. Même un indigent à 8h du matin, il sort, il fait quoi?
C'est la même.
Il a même pas 1 € dans sa poche pour aller boire un café.
Juste un café.
Il fait quoi?
Forcément, il sera obligé d'au moins d'aller voler ou je sais pas, mendier déjà. Mais il me faut un suivi.
C'est sûr que c'est mieux de...
Il me faut un suivi, vraiment un truc qui me suit. Sinon, si je sors pour sortir le matin et regarder tous les passants de gauche à droite, je me dis, putain, lui, il est là, regarde, il sort de l'argent, il peut acheter son paquet de cigarettes, payer son café. Moi, je fais comment? Alors que j'habite quoi? J'habite à 50 km d'ici. Comment je fais? Mais tout ça, ils ont... Je vais pas dire, ils en ont rien à foutre, on va rester...
Même le mentionner,
Ouais. Franchement, je ne le mentionnerai même pas. Parce que déjà, la réinsertion, juste ce terme-là, c'est compliqué déjà.
Il parle de réinsertion, mais au final, quand tu vois, t'as vu, quand tu vis le truc, il n'y a pas de réinsertion. Il n'y en a pas. De base, regarde, moi je suis arrivé, moi c'est simple, j'avais le bracelet pendant 7 mois. Je suis passé en débat contradictoire et ils m'ont mis en semi après. Pendant les 7 mois, j'étais en bracelet. Ma SPIP, je la voyais minimum une fois par mois. Et allez, ça pouvait aller à 2-3 fois par mois. Mais alors d'aujourd'hui, là, depuis que je suis en semi, ma SPIP, je l'ai vue
le premier jour.
Que le même pas le premier, le deuxième. Voilà, deuxième. On va être gentil avec eux. Le deuxième jour. Le deuxième jour où je suis arrivé, ma SPIP, je l'ai vue. Bah, pour te dire, ma SPIP, depuis que je l'ai vue le deuxième jour, j'ai aucune nouvelle d'elle. Tu sais, normalement, ils ont mon numéro de téléphone.
Oui, voilà.
Bien sûr.
Elle t'appelle, voit les démarches que tu fais, convocation, tu dois leur amener le justificatif.
Par contre, si t'arrives
en
retard,
rien de tout ça.
Elle va s'en rappeler de ton
Voilà. Et ben, quand on arrive en retard, par contre, ils nous font signer un papier. Ils nous font signer un papier, comme quoi une décharge, genre vous êtes arrivé en retard, le temps, je sais pas, 10 ou 15 minutes.
Ouais, mais justement.
Et là, c'est signalé. Donc à la fin du compte, vous me parlez réinsertion. Non, mais vous êtes là en train de me fliquer plus qu'autre chose, en gros.
Mais c'est complètement
C'est même
ça.
Pas
ça,
vous m'aider, ouais, mais... vous me fliquez, genre... Le truc, si, ça, vous n'avez pas le droit, non.
Le truc, c'est quoi, au bout d'un moment, tu as vu, quand tu vois tout ça, tu vois que ça va que dans leur sens. C'est tout, pas dans les deux. Normalement, quand tu...
Ah ouais, là, dans cet extrait-là, du coup, il parle de la thune, et c'est vrai, du coup, la thune, quand tu travailles à l'extérieur, selon l'autorisation du JAP, elle peut être versée sur un compte à l'extérieur, mais aussi sur le compte que tu as à la tôle. Et c'est pas toi qui décide, en fait, c'est le JAP, a priori, qui décide où va la thune de ton salaire.
Et d'ailleurs, sur la question de la thune, ils en parlent à d'autres moments de l'interview, où ils disent justement que même pour s'acheter à manger le midi, en fait, quand tu sors, quand ton horaire est fixé avant 14h, t'as pas le repas du midi, et ça veut dire que tu dois te débrouiller toute la journée pour acheter à manger, si tu veux, ça... acheter à manger et que du coup bah, ça te coûte de la thune et que t'as pas forcément quoi.
Tu vas pas te préparer un petit repas dans la tôle quoi.
Ouais, et puis ce truc de 8h c'est 8h, du coup à 8h on te met dehors, genre c'est l'hiver, limite il fait nuit, t'as rien à faire, genre tu dois aller à Pôle emploi, genre Pôle emploi c'est fermé, enfin genre en fait c'est genre juste illogique et du coup ça fait que les gens ils doivent zoner et genre ça a pas de sens quoi.
Ouais, ça, tu sors à heure fixe, maintenant c'est bon, tu pars. Mais par contre, pour rentrer après, si t'as 2 minutes de retard, là c'est fini. C'est vraiment. On va écouter une petite musique avant de continuer. Et du coup, on va écouter Hold Up de Mosca.
Carnaval sur le macadam, sort le cartel de la rage plein les cartes, car des villes sont mises en quarantaine, déguisées en cannibales, car on a les crocs de croque, mitaines pour les armées de crevards en costard et les xénophobes qui partent centaines. On défoule de paria en pariant sur le départ de ceux que Marianne ne veut pas marier à son territoire. Un strapon d'un fond de cale pour les ennemis du pouvoir, mais déjà passant de nos chaînes, donne le lac qui quitte dans le noir. Même si la zik est truquée par l'orchestre bureaucrate qui se braque à séquestrer la clé du sol à coup de matraque, à passe de Frontex en contrôlant les frontières en monarque et ceux qui parviennent à débarquer comme des parasites sont parqués, rien que des dossiers vite classés. Au QTF, on pack, il parle la paf et la PAC, il traque direction crasse, cité en barque. Bande de tarés, pour des papiers, vos brefs, on va les braquer. On en profitera pour cramer vos comico, Frontex et l'Elysée. Carnaval, carnage, hold up. Sors les visas, braquage en cortège, des masques en rage. Et sur les visages, on vient casser les gages. Fite et les craps pour tout crame. Fille, ça pour les farts. Et maintenant, c'est tous les jours mardi crame. Fille-toi. Carnaval, carnage, hold up. Sors les visas, braquage en cortège, des masques en rage. Et sur les visages, on vient casser les gages. Fite et les craps pour tout crame. Fille, ça pour les farts. Et maintenant, c'est tous les jours mardi crame. Fille-toi. Pas besoin de chars, frère. On a déjà des chars, terre. Jusque cher, car on crée des cailloux dans les artères. Puisque les gens sont graves, sourds. Vas-y, sors les pétards, serre. De la frontière, les tympans. Ce soir, on est les traceurs. Ceux qui se sentent visés sont les ceux-là qui savent faire peur. D'ailleurs, pour les accuser, on a posté des faire-part. Des dossiers qui pèsent lourd, en recommandé ça coûte cher. Des demandes de carte de séjour qui prennent la poussière. Des gens traités comme des dossiers, au mieux comme des boutières. Mais qu'est-ce tu crois? Pour la France, ils ont eu le coup de cœur. Dès l'arrivée, pas de bouquet de fleurs, mais le statut de bouc émissaire. L'accueil de la police aux frontières après un voyage à bout de nerfs. Qu'est-ce tu préfères? L'attente ou le transfert? La planque et la galère? Ou la descente aux enfers? Entre deux rétentions ou l'administration d'un carcère? La résignation ne cautérise pas le couteau qui t'éviscère.
Carnaval, carnage, hold up. Sors les vis, apprends qu'à j'en cortège des masques en rage. Et sur le visage, on vient casser les cages. Vite et les crabes pour tout cramer. Vis ça pour les farces. Et maintenant, c'est tous les jours mardi gramme. Et vite, toi. Carnaval, carnage, hold up. Sors les vis, apprends qu'à j'en cortège des masques en rage. Et sur le visage, on vient casser les cages. Vite et les crabes pour tout cramer. Vis ça pour les farces. Et maintenant, c'est tous les jours mardi gramme. Et vite, toi.
Je vous préviens. Attention, vous mettez les pieds.
Vous ne comprenez pas, ce sont les colons qui sont responsables de tout ça.
Procédure du blin, ouais d'emblée, le tenis t'attend. Ton résident mendique comme si l'exil était un délit patent. Un truc éclatant, la cause du massacre au Bataclan. À tenir ses propos crades, ils forment un sacré bataillon. C'est presque trop tard pour stopper leur baladant. En me baladant, je ne vois plus que du racisme latent. En tout cas, ne crois pas ce que t'entends. Leur faire avaler la langue s'étendant. Pour leur péter les dents, j'irai sans gants. Je ferai pas semblant, ce sera sanglant. Je sais, c'est dominé pendant 100 ans. C'est mort, on est des battants. Dehors, ça sera semblant. Meute de gens qui ne se ressemblent pas vraiment. T'as peur de c'est quoi, on va pas s'entendre. J'emmerde ta race, ton blanc et ton occident condescendant. T'es pas bien loin de colon, c'est pillagé, c'est coup de fouet. C'est que des prises d'emprunt de force, y'en a qu'en sortent les pouces foulés. Si ton pas de tout coule, ben t'inquiète, on t'offre le bout et troué. Ça me coûte d'écouter vos discours, vous m'avez tous saoulé. Sous les fenêtres de la preuve, trône, car à mantra, on s'en garde, garde, keuf, carré pour parer l'entrée, car à montrer les crocs, on est carrément trop. T'es pas pis pour tous, ça finira en caramel cramé.
Carnaval, carnage, hold up. Sors le vis, braquage en cortège, des masques en rage. Et sur le visage, on vient casser les cages. Et vide les crabes pour tout cramer. Vis ça pour les farces. Maintenant, c'est tous les jours mardi crame. Et vide-toi.
Carnaval, carnage, hold up. Sors le vis, braquage en cortège, des masques en rage. Et sur le visage, on vient casser les cages. Et vide les crabes pour tout cramer. Vis ça pour les farces. Et maintenant, c'est tous les jours mardi crame. Et vide-toi.
Salut, vous êtes de retour sur Carapatage, l'émission contre toutes les cages. Pour rappel, on a un blog dont j'ai pas parlé depuis le début.
En fait, alors là, je viens de me rappeler qu'on a un blog.
On a un blog, c'est carapatage.noblog.org.
Noblogs.org.
Et où on mettra différentes ressources de l'émission. On mettra aussi l'interview de l'envolée qu'on a écoutée. Je vais continuer un peu sur comment la semi-liberté ça rentre dans un peu ce système de carottes et de bâtons de l'administration pénitentiaire. C'est-à-dire qu'en fait l'administration pénitentiaire, sous certaines conditions, avec certains régimes de détention, elle te permet d'avoir accès à des conditions de détention qui sont moins horribles, mais c'est aussi y avoir accès, ça devient aussi un moyen de pression sur les prisonniers, prisonnières pour l'obtenir, et une fois obtenu, il y a toujours cette menace qui plane d'être envoyé dans des conditions de détention plus dures. Donc en fait, tu disais tout à l'heure, tu disais déjà, Henri, obtenir un placement en semi-liberté, ça demande des critères bien précis, et du coup, ça peut être une pression, enfin ça devient une pression qui peut être exercée pour se tenir, pour pas faire de vagues, pour pas se rebeller, pour suivre ce qu'on te demande de faire, quoi. Et ouais, ça devient un outil de pression aussi pour après obtenir son placement en semi-liberté pour finir sa peine potentiellement. Et en fait, une fois en semi-liberté, la semi-liberté, elle peut être retirée si les conditions sont plus remplies ou alors si les prisonniers, prisonnières ne respectent pas les obligations qu'on leur a données. Ou si on estime que si les matons estiment qu'ils n'ont pas une conduite qui convient, s'ils se rebellent, si voilà. Et donc voilà, il y a cette menace du placement en détention classique, de revenir dans ces conditions de détention d'avant. Et en fait, il y a ça qui plane comme menace, mais il y a aussi d'autres sanctions qui peuvent être prises aussi contre les détenus en semi. Avant ça peut être par exemple le retrait des permissions de sortie. Et en fait, c'est le juge d'application des peines qui peut ordonner ce révoquement de la semi-liberté, et le détenu peut faire appel de cette décision. Mais en fait, il y a aussi le chef d'établissement estime que c'est un cas urgent, il peut ordonner la réintégration immédiate du condamné en détention avant que le juge se prononce après sur le remettre ou pas en semi. Et Henri, maintenant tu veux nous parler un peu d'un témoignage qu'on a reçu.
Ah ouais, du coup, quand on préparait l'émission, on a mis un message sur Insta en disant que si des personnes qui nous suivaient avaient fait de la semi, elles pouvaient nous contacter. Et du coup, on a été contacté par quelqu'un qui a fait de la semi en 2012 à Corbeil-Essonnes et qui nous a raconté plusieurs trucs, notamment le fait qu'en fait il avait toujours peur des horaires, en fait, que les horaires c'était un gros stress, genre arriver en retard, etc. Enfin, il y avait cette question-là. Et aussi l'autre truc qu'il nous a raconté, c'est que bah voilà, il y a toujours cette menace de la détention au-dessus de la tête, et que lui il a vu ça notamment un jour où ils sont sortis, donc le matin avec les autres semi-libres entre guillemets, et que en fait il y avait les flics qui attendaient un prisonnier et qui l'ont directement kébar parce que un de ses sursis avait été révoqué, et du coup directement direction la prison avec aucune possibilité de prévenir sa famille, et que c'est plusieurs jours plus tard, quand il est arrivé aux arrivants et qu'il a eu accès à un téléphone, qu'il a enfin pu prévenir sa famille, quoi.
Oui, parce qu'en fait, ça, si tu arrives en retard, même de quelques minutes, ça peut dire potentiellement que tu te retrouves très rapidement à te refaire enfermer. Enfin, on te retire souvent ta semi-liberté, quoi.
Ouais,
dès que t'es en retard.
Ouais, bah du coup, voilà, il y avait un peu ces deux trucs-là qu'il nous a raconté, et notamment ce truc sur les horaires qui est très stressant et qui est très strict, quoi. Voilà, à peu près. S'il y a d'autres personnes qui nous écoutent, qui ont fait de la semi et qui ont envie de nous écrire, n'hésitez pas.
Et du coup, maintenant, tu vas un peu nous parler de comment, en fait, la semi-liberté, ça rentre aussi dans une extension de l'enfermement.
Ah ouais,
totalement.
Ouais, bah alors j'avais pas tout. Ouais, ouais, tout à fait. Bah une extension de l'enfermement, en fait, c'est un peu comme tous les aménagements de peine, c'est-à-dire prolonger, bah là, en l'occurrence, en prison, la peine, mais aussi à l'extérieur avec le bracelet, les placements à l'extérieur, la liberté sous contrainte, etc. Et du coup, on en a déjà parlé, mais tout à l'heure, je crois que c'est Henri qui en a parlé. Auparavant, les aménagements, c'était possible quand on prenait 2 ans ou moins. Et maintenant, c'est 1 an ou moins. Mais normalement, si on prend moins de 6 mois, c'est directement aménagé. Et entre 1 et 6 mois, c'est aménageable. Sauf si, en fait, le juge considère que les garanties sont pas bonnes. Donc ça, c'est très à l'appréciation du juge, quoi. Garantie pas bonne, c'est pas très précis comme information. Et du coup, dans cette extension de l'enfermement et dans le fait de trouver toutes sortes de nouvelles formes d'emprisonnement, et à l'intérieur ou à l'extérieur, ils ont inventé les SAS. Alors les SAS, ça pourrait être un peu comme la semi-liberté, mais du coup, là, tu peux y être placé sans ton consentement. Pour les personnes à qui reste moins de 2 ans, a priori, il y a plus d'intervenants qu'en semi-liberté, mais quand on est dans un SAS, on peut aussi demander un aménagement de peine et donc aller en semi-liberté. Et du coup, tu as plus de comptes à rendre quand tu es dans un SAS que quand tu es en semi-liberté, sur les démarches que tu vas faire, sur justifier pourquoi tu as besoin d'une sortie. Etc. Et du coup, il y a des prisons où il va y avoir des SAS. Enfin non, parce que les SAS, en fait, ils vont pas être dans les prisons. Ça, c'est l'idée, mais en fait, il se trouve que normalement, ça devait être un truc qui est plus dans le centre-ville, qui est pas forcément là où ils mettent les prisons, genre hyper loin, là où il y a pas de transport. Là, le SAS, ça devrait être un endroit où du coup, c'est accessible, il y a des transports, les gens ils peuvent facilement aller faire leurs démarches, etc. Blablabla. Mais du coup, en fait, c'est pas toujours le cas, là. Et là, par exemple, à Caen, ils viennent d'ouvrir un SAS de 90 places, la fin décembre, et il est à côté du centre de semi-liberté et du centre de pénitentiaire. Enfin, pas très loin, quoi. Pardon. Excusez-moi. Et voilà, à peu près tout ce que je voulais vous dire un peu sur les SAS. Et là, le prochain, c'est celui du Pontet, où il va y avoir 120, enfin, où il prévoit 120 nouvelles places. Voilà.
Bah, avant de continuer, on va écouter une petite musique. c'est une musique en occitan qui s'appelle Fai Sautar de San Salvador. Salut, vous êtes de retour sur Carapatage. Donc ce soir, on parle de semi-liberté. Et pour rappel, on a un Instagram, si vous voulez nous contacter, @carapatage, et une adresse mail, carapatage@riseup.net. Donc là, je vais continuer en parlant un peu de, en Ile-de-France, c'est quoi les centres de semi qui existent et les potentiellement futurs projets. Donc, en Ile-de-France, il y a à la fois des centres et des quartiers de semi-liberté et des centres de peine aménagée. Donc, en fait, les centres de peine aménagée, c'est pour les personnes qui ont une mesure de c'est soit pour les personnes qui ont une mesure de semi-liberté, soit pour les personnes qui sont placées à l'extérieur. Si la personne n'est pas hébergée par une structure ou par une association, elle rentre le soir en prison ou alors le week-end en prison. Et aussi pour les personnes qui ont un reliquat de peine inférieure à un an. Donc, en Ile-de-France, il y a plusieurs centres et quartiers de semi-liberté et de peine aménagée qui sont collés à des prisons. Ce qui fait qu'en fait, il y en a beaucoup qui sont genre très éloignés des centres-villes. Donc, il y en a, et ce qui rend le déplacement à la journée compliqué. En fait, on l'entendait déjà dans l'extrait tout à l'heure que en fait, c'est compliqué quand tu habites loin pour, faire tout, pour voir ta famille, pour faire tout ce que tu as à faire en une journée, en peu d'heures dehors. Donc, dans les quartiers de semi-liberté, il y en a un à la prison de Fresnes, il y en a à la prison de Bois d'Arcy, il y a la prison de Versailles, à la prison de Meaux et à la prison de la Santé. Donc, voilà. Et après, il y en a aussi qui ne sont pas collés à des prisons, qui ne sont pas rattachés à des prisons et qui, du coup, souvent sont plus dans des centres-villes. Donc, il y en a un à Gagny, un à Corbeil-Essonnes, où Corbeil-Essonne, c'est aussi le seul endroit où il y a un quartier de semi-liberté pour femmes de toute l'Île-de-France, où il y a 10 places, quoi. Et il y en a un à Melun, dans l'ancienne maison centrale, et il y a un quartier pour peine aménagée à Villejuif. Et donc l'ouverture la plus récente d'un centre de semi, c'est l'ouverture en 2019 de Suite Nanterre, où il y a 92 places, et c'est aussi sur le même... au même endroit, il y a aussi le siège des services pénitentiaires d'insertion et de probation des Hauts-de-Seine, les SPIP, qui assure voilà, le suivi des personnes. Et en fait, un des arguments quand il y a eu ce centre de semi-liberté qui a été construit, c'était pour pouvoir transférer en fin de peine les détenus de la maison d'arrêt surpeuplée des Hauts-de-Seine. Voilà, alors qu'ils pourraient être libérés, par exemple. et en fait, dans le cadre du plan prison, il y a c'est la construction de 15 000 places de prison. Et il n'est pas prévu de construire des centres de semi-liberté, mais des SAS, comme l'expliquait Pile tout à l'heure. Donc en Île-de-France, il y a 5 SAS qui sont en projet. Donc il y a un SAS à Osny. Un SAS à Meaux, un SAS à Noisy-le-Grand, un SAS à Poissy et un SAS dans le Val-de-Marne, où il n'y a pas encore de ville. Pour ce dernier, il n'y a pas encore de ville précise encore. Et en fait, les travaux des trois premiers, ils sont en cours et doivent finir pour fin 2023. Et au SAS de Noisy, au sein du SAS, il y aura aussi 30 places de semi-liberté. Et en fait, voilà. Et si, qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, juste un truc sur le SAS de Meaux, qui va se construire. En fait, à Meaux, il y avait un quartier pour peine aménagée. Et en fait, avec la construction du SAS de Meaux, les personnes qui étaient dans ce quartier ne vont plus être dans ce quartier pour peine aménagée. Donc ce quartier va être libéré. Et dans ce quartier, après, bah, on va pouvoir enfermer des mineurs incarcérés. Voilà.
Et ouais, peut-être, je sais pas si vous l'avez déjà dit, je crois pas que on avait fait plusieurs émissions sur le SAS de Noisy-le-Grand, sur la construction et la lutte contre la construction, et du coup vous pourrez retrouver ça sur notre blog, c'était l'année dernière.
Ouais, il y avait une sur le SAS, sur les SAS de manière générale.
Ouais, et plusieurs émissions qui, je pense, reparlent du projet de construction et des luttes contre.
On en mettra au moins une en lien et...
Ouais.
Et voilà.
Et Pile, tu voulais continuer en nous parlant des... potentielles évasions et des résistances qu'il peut y avoir dans les centres de semi.
Ouais, parce que en fait, la plupart des évasions en France, elles sont faites par les personnes qui sont en semi-liberté ou qui ont des permissions de sortie. Du coup, ça représente environ, parce qu'il y a des années à évasion, il y a des années où il y a moins d'évasion, environ 300 par an. Et à chaque fois... Pardon. Et à chaque fois, quand les personnes retournent en prison ou se font choper, les personnes prennent du ferme et sont souvent jugées en comparution immédiate. Je suis pas sûre que je vais réussir à finir cette partie parce que je suis en train de m'étouffer.
Vas-y, t'inquiète.
Je m'excuse pour tous les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent. J'avais réussi à tenir jusque-là, mais la dernière ligne droite est difficile. Et pourtant, c'est la meilleure, c'est le moment des évasions. Du coup, là, en regardant un peu les brèves sur Internet, il y a des évasions, une ou deux par mois en France, quoi, de semi-liberté. De personnes qui ne retournent pas dehors. Et voilà. Et par exemple, là, à Caen, récemment, il y a une personne qui a fait 8 mois de cavale, qui a été ensuite jugée pour cette évasion à 4 mois ferme supplémentaire. Il y a une autre personne, par exemple, en Isère, où elle a fait... elle a été condamnée à 3 mois pour 4 jours d'évasion, alors qu'elle s'est rendue elle-même seule à la prison, quoi. Pour une évasion de quelques jours à Nîmes, il y a quelqu'un qui a pris 2 mois ferme. Puis il y a une autre personne qui en était à sa 3e évasion de semi-liberté, qui a pris 8 mois ferme. Pareil au Mans, là, en mai dernier, 2 personnes qui ont pris 8 mois ferme. Et puis d'autres personnes à qui souvent il ne reste pas beaucoup de mois de prison à faire, en fait, parce que souvent quand tu es en semi-liberté, il ne reste pas beaucoup de temps, qui du coup prennent carrément plus cher, quoi. Et, Et voilà. Et du coup, un peu dans les résistances, je n'ai pas plein de choses à raconter, mais ce qui nous a fait, comme on l'a dit tout à l'heure, penser à faire cette émission, c'est ce qui se passe actuellement à la prison à côté de Saint-Étienne, à la Talaudière. Et du coup, là, ce qui a permis un petit peu que les détenus participent au rassemblement, c'est ce qui a été dit un peu dans un des extraits, là, c'est que tant qu'il y a du monde devant, ils ne veulent pas ouvrir, donc ça leur a permis de pouvoir rester dehors, quoi. Mais parce que, ils disaient, ils ont peur des évasions. Mais parce qu'il y a vraiment, quand même, dans les brefs que j'ai pu voir, des gens qui sont évadés de semi-liberté, mais genre la nuit.
De l'intérieur, quoi.
Ouais, depuis l'intérieur. Donc voilà, ça, c'est quand on peut vraiment plus, j'imagine. Et du coup, il y a quelques histoires comme ça où il y a des personnes qui s'évadent aussi le week-end ou la nuit de semi-liberté, quoi. Voilà.
Et on va écouter une petite musique. On va écouter Libre Atrevida y Loca de Rebecca Lane, Miss Bolivia et Ali Guagua.
Está todo okay. Rebecca Lane, Miss Bolivia, con Ali Guagua, con el chess, okay. Original, carnalas. Y se me nota la lengua pelo de entrada, la combinación fatal no queda nada. Y no me digan pavadas, prefiero morir a vivir con la boca cerrada. Y no me digan lo que tengo que hacer, y no me digan de la forma que me tengo que mover, que la ley no me va entre las piernas. Tengo la boca afilada y la mente atenta. Bien cerda, atrevida, jodida y potra, la negra hija de puta con el fuego en la boca, con la Rebeca que menea como loca. Vamos con Ali Guagua que la sube y destroza. Va como anormal, como animal, juntando los ovarios en un solo canal. Ay, 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 como suena el ritual, haciendo magia, exorcizando el mal. Yo, yo. Si con la blusa se me sale el ombligo, si estas panties me quedan muy apretadas, si mi cabeza siempre está despeinada, que si traigo muy corta la falda, que si bailo como me da la gana, que las ladies no usan malas palabras, que la mente y la boca cerrada. Solo la abres para hacerme mala fama, lo que pasa es que no estoy acomplejada. ¿Cómo crees que te ves siendo tan soez con otra mujer? ¿Te sientes libre? Libre la que ríe, la que gime, la que grite, la que baila, la que goza, la que explota, la que brilla porque no le importa y no corta las alas a otras.
Represento al puerto donde se hacen las mejores parties. Con mis hermanas practico la cumbia. Es una religión como el hip hop, que no te queden dudas. Ni técnicas ni rudas, tan solo luchadoras en el ring de la hermosura. Envuélvete en periódico, mira ya madura. Estamos resistiendo porque el mundo tiene cura. Mujeres pisoteadas, hechas una cagada. Pasan los siglos y seguimos basureadas. Esclavas de la puta manada. Y si decimos algo somos brujas y malvadas. Cisternas, carnalas, cabronas, armadas. De lírica explosiva, de música pesada. Suena profundo por toda la casa. México, Argentina, en vivo en Guatemala.
Y la otra vida y loca. Y con el cuerpo en la boca.
Salut, vous êtes de retour sur Carapatage.
T'aimes trop dire salut, ouais. Genre 5
fois. Bonjour,
bonjour,
bonsoir,
salut,
bonjour.
Salut, et c'est nous.
Et ben, on va continuer, on a fini par de la semi-liberté. Et maintenant, Henri, tu vas nous faire une petite chronique sur le procès de Ruby McCollum.
Exactement. Alors, avant toute chose, la suite de cette chronique va parler notamment de viol et d'agression sexuelle. Donc, si vous n'avez pas envie d'entendre parler de ça, n'hésitez pas à éteindre le poste de radio.
Et on vous salue.
Et on vous salue et on vous adore. Donc, aujourd'hui, je vous emmène en Floride, où a eu lieu en 1952 le procès de Ruby McCollum pour l'assassinat du docteur Leroy James. Pour écrire cette chronique, je me suis appuyée sur le zine Resurrecting Ruby, a Modern Retelling, Ressusciter Ruby, une nouvelle narration, de Victoria Lowe et Mariamé Kaba, qui sont deux militantes féministes anti-prison et anti-police états-uniennes. Et elles souhaitent que l'histoire de ce procès des années 50 donne de l'eau à nos moulins aujourd'hui. En août 1952, Ruby McCollum, la femme noire la plus riche de la ville de Live Oak, tous ces détails sont importants pour la suite, se rend au cabinet du docteur Adams, médecin blanc apprécié de tous. Tous ces détails sont aussi importants pour la suite. Avec qui elle entretient une relation extra-conjugale et le tue avec une arme à feu. Le cœur d'usine dont je parlais plus haut est constitué du récit du procès de l'écrivaine noire Zahra Neale Hurston, qui a été assistée au procès pour le compte d'un journal. Nous sommes en 1952, au sud des États-Unis. Tous les espaces publics sont ségrégés. Donc Zahra Neale Hurston assiste donc au procès d'une galerie réservée aux personnes noires, d'où elle observe toute la bonne société blanche de Live Oak piper les dés de ce procès. Les seuls noirs autorisés à entrer dans cet espace sont l'accusé et l'agent d'entretien. C'est important, j'y reviendrai par la suite. Premièrement, le juge a placé Ruby McCollum, l'accusé, sous mesure d'obligation de garder le silence, ce qui l'empêche de parler à la presse. Deuxièmement, tout est fait pendant le procès pour empêcher Ruby de raconter son histoire. Il est décidé à l'avance que le motif de son crime est une facture médicale impayée, ce qui, si vous avez suivi, ne tient pas la route car elle est la femme noire la plus riche de la ville et que sa famille est connue pour payer toutes les factures très promptement. Interrogée sur sa relation avec le médecin, Ruby aura l'occasion de dire qu'elle a subi une relation sexuelle non consentie de sa part pendant le cours de leur relation et qu'il l'a ensuite forcée à porter l'enfant issu de ce viol. C'est une autre raison pour laquelle ce procès a fait date. Nous sommes dans une Floride post-esclavagiste où, pour la première fois, une femme noire fait état publiquement et devant une juridiction de la violence sexuelle d'un homme blanc à son égard et de la grossesse qui en a suivi. Malheureusement, Ruby sera empêchée de s'exprimer plus à ce sujet car à 38 reprises, le procureur, un ami de longue date du docteur, fait objection à toutes les questions concernant les abus qu'elle a subis et ces objections sont soutenues par le juge. Vous savez, comme dans les séries américaines où, pendant les procès, ils disent « Objection, votre honneur » et le juge accepte. Bah, c'est ce qui s'est passé à 38 reprises. Donc, Ruby McCollum est empêchée de raconter sa version des faits. À l'issue de ce procès, elle est condamnée à mort. Son avocat fait appel et au deuxième procès, elle est déclarée inapte à être jugée puis transférée dans un hôpital psychiatrique, dans une sorte de prison à l'intérieur d'un HP, ce qu'en France on appelle unité malade difficile. 20 ans plus tard, elle est libérée de cet hôpital, en vertu du fait qu'elle ne présenterait plus aucun danger. Elle finit sa vie dans une maison de repos, où elle dit n'avoir aucun souvenir des événements, ce qui peut être imputé au fait qu'elle a subi des électrochocs et une forte médication à base d'antipsychotiques à l'hôpital. Beaucoup d'éléments laissent penser que le geste de Ruby McCollum était un geste d'autodéfense. Dans une lettre à son avocat, elle dit notamment que le docteur était violent avec elle et qu'il lui administrait des calmants quand elle le dérangeait. Une secrétaire du docteur a aussi tenté de dire à la barre qu'elle avait vu Ruby et le docteur se disputer, mais elle est empêchée, elle aussi, de témoigner et elle est même violemment renvoyée chez elle. Une autre raison qui a empêché la vérité d'éclater au grand jour est que la communauté noire de la ville de Live Oak était terrorisée par la peur des notables blancs de la ville comme du Ku Klux Klan. Nous sommes dans le sud ségrégationniste des États-Unis où les blancs sont connus pour être violemment racistes et il est fort à penser que ce meurtre d'un homme blanc ne restera pas sans suite. D'ailleurs, le mari de Ruby McCollum a fait une crise cardiaque dans les jours suivant l'assassinat, probablement parce qu'il était très stressé et en peur de subir des représailles. La journaliste Zora Neale Hurston parle aussi de l'agent d'entretien du palais de justice que je mentionnais plus haut. Il était connu de tous qu'il avait été le jardinier de la famille McCollum pendant des années. Lui comme d'autres se sont sentis obligés de montrer qu'ils ne soutenaient pas Ruby et ont été très déférents vis-à-vis du juge. De peur, de nombreux noirs de la ville proclamaient haut et fort qu'ils souhaitaient la chaise électrique à Ruby. Pour les autrices d'usine, le cas de Ruby McCollum est celui d'une survivante de violence qui s'est défendue par ses propres moyens face à un homme blanc plus puissant qu'elle et ensuite été punie par la justice. Des Ruby, il y en a plein les prisons états-uniennes où les femmes noires sont à la fois plus susceptibles de subir des violences conjugales et deux fois plus condamnées à la prison que les femmes blanches. On lit aussi que 77% des femmes en prison ont subi des violences d'un partenaire. L'histoire de Ruby McCollum est donc encore bien d'actualité.
On mettra le zine sur notre blog.
Tout à fait.
C'est la fin de cette émission. Pour une fois, on finit en avance.
Franchement, exceptionnel, Carapatage.
Une émission courte. Bonne soirée. Et l'émission de la prochaine fois, ça sera le
15 février
sur l'ADN.
Force à toutes celles et ceux qui sont à l'intérieur. N'hésitez pas à nous écrire et on vous envoie plein de force pour
et on va écouter quoi ?
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Ciao.
Le ciel est gris à la cité aussi. Et oui, c'est triste dans la famille aussi. Mais malgré tout, je vais jamais renoncer. Je veux être numéro 1, le capitaine de la team. Je veux être numéro 1, dans le terrain à battre. Je veux être numéro 1, un jour je serai le king. Mais c'est numéro 1, un jour je serai le king. C'est la zic ou le sport qui me sortira du square. Toute ma vie j'ai vu des frères s'en aller au star. Ils ont perdu espoir, mais je ne les lâche pas. Les figures paternelles aux abonnés absents. Donc pas droit aux histoires que racontent les hommes forts. Toujours dans le rouge sur le thermostat. Donc non je ne lâche pas, je veux la vie d'une rockstar. Même si le cœur est triste, la mélodie aussi. Le ciel est gris à la cité aussi. Eh oui c'est triste dans la famille aussi. Mais malgré tout je vais jamais renoncer. Je veux être numéro 1, le capitaine de la team. Je veux être numéro 1, dans le terrain à vacuum. Je veux être numéro 1, un jour je serai le king. Mais c'est numéro 1, un jour je serai le king. On est malheureux, pas miskin, yeah. C'est pas pour la mif, c'est pas pour le vif. Je n'enlève pas le gars qui du placard, yeah. Numéro uno, l'argent ne fait pas le bonheur en métal, yeah. Numéro uno, tellement loin devant. Coincé en 30-21. Le cœur est triste, la mélodie aussi. Le ciel est gris, à la cité aussi. Et oui, c'est triste dans la famille aussi. Mais malgré tout, je vais jamais renoncer. Je veux être numéro 1, dans le terrain à battre. Je veux être numéro 1, un jour je serai le king. Mais c'est numéro 1, un jour je serai le king. Sans se toucher, faut même pas me chauffer. Je vais ramener des trophées. Oui, ramener des trophées. Prendre fier, je veux être numéro 1, le capitaine de la team. Je veux être numéro 1, dans le terrain à battre. Je veux être numéro 1,
que ça va le faire. Ça va le faire. Ça va le faire. Ça va le faire.
You're a Kina. Marion.
Carapatage, une émission contre toutes les cages. Carapatage, c'est une émission contre les prisons, la répression et le contrôle.
À travers l'actualité de l'enfermement, mais aussi son histoire.
En racontant les luttes à l'intérieur et à l'extérieur, en échangeant ce qu'on a vu, lu et entendu.
Carapatage, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h,
sur Radio Libertaire 89.4 FM. Carapatage,
contre toutes les cages.